Game Radio, la radio 100% jeux vidéo.
Game Radio.
Essaie de parler un petit peu, raconte n'importe quoi.
Bah, je sais faire, raconter n'importe quoi. Tu veux que je te raconte comment je me suis retrouvé tout nu, derrière une voiture, dans les rues du Mans, par exemple?
Bonjour, en léger contretemps, j'ai mis mes courgettes à la feta et cuire dans le four et elles viennent juste de finir de cuire, donc...
Allô, attends, le micro est bon là ou pas?
Il y a un écho.
D'accord, attends.
Il y a un écho féminin chez toi, Jérémy.
Ouais, aussi, ouais.
Là, il faut révéler un secret, le secret de fabrication du son de Jarel. Il utilise le micro de SingStar.
En fait, je suis un grand crooner, je me balade tout le temps avec le micro de SingStar, donc voilà quoi.
Est-ce que là, c'est bon?
Oh, oui.
Attends, sinon j'ai le casque de la dernière fois, je vais essayer le dernier casque.
Tu vas nous avoir par l'épuisement. Je vais faire un tout petit footing pour mettre en jambe, je reviens.
C'est pas grave, on va animer l'émission sans lui.
Ah, je reconnais bien les mecs qui ont des Xbox.
T'as enregistré, Gus? T'as enregistré là?
Bon, le bêtisier, t'es.
Le thème de ce podcast, c'est la guerre des consoles. Juste, il y a quelqu'un qui a tapé au clavier.
Oui, il y a quelqu'un qui tape au clavier, qui clique avec sa souris, faut absolument.
C'est interdit.
Bah, c'est pas moi qui clipote, hein.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de The Émission, un podcast exceptionnel sur Game Radio, puisque je vous le rappelle, le principe de The Émission, c'est de réunir régulièrement autour d'une même table les rédacteurs de différents médias consacrés aux jeux vidéo et qui plus est, des médias consacrés à des consoles concurrentes. Pour m'accompagner et tenir avec moi les rênes de cette émission, Maître Jarel est là avec moi. Jarel, bonsoir.
Oui, il n'y a pas de problème, j'ai révisé mon kung-fu, etc. Et je vais essayer de tenir le mieux possible.
alors c'est pas le thème de l'émission, c'est pas le kung-fu.
Ah, non, mais on ne sait jamais, hein. Si jamais tu dévies...
Ah oui, non, ça y est, j'ai compris pourquoi tu disais ça. Bon, on va expliquer aux gens, effectivement. Voilà, Jarel fera le garde du corps ce soir. Effectivement, parce que on sera pas trop de deux pour affronter cette émission. En effet, le thème de ce podcast, c'est la guerre des consoles. Je pense qu'on va tout de suite vous présenter nos invités. Alors, ils sont trois et ils arrivent chacun de trois rédactions différentes, de trois sites différents consacrés à trois consoles, trois constructeurs différents. On va commencer avec quelqu'un que les auditeurs de Game Radio connaissent bien maintenant, puisque vous avez pu suivre ses aventures à Cologne à l'occasion de la Gamescom. Il s'agit de Maxou du site xboxmag.net. Maxou, salut, comment vas-tu?
tu me connais bien, la vache, tu déformes mon nom.
Non, mais
salut Guillaume, salut à tous.
Ouais, salut Maxou, comment vas-tu? Voilà. Salut Maxou. J'ai tendance à dire Maxou, c'est vrai, ça me vient naturellement. Donc je vais faire un effort, essayer de pas déformer ton nom. Tu vas représenter xboxmag.net, mais pas seulement, hein. C'est un petit peu toute la communauté Xbox, Microsoft qui est derrière toi. C'est une lourde responsabilité.
Tu m'en mets beaucoup sur le dos, là.
Ah bah écoute. Écoute, ce sera ton rôle ce soir. Autre invité de ce podcast spécial Guerre des consoles, on accueille le site Play3Live et son représentant. J'ai nommé Drummer Bart. Alias Bruno. Alors comment je t'appelle, Bruno, Drummer?
Ouais, Bruno, Drummer, comme tu veux.
Ce sera Bruno, je pense que c'est ce qui me viendra le plus naturellement. Comment vas-tu?
C'est mon prénom en même temps, donc c'est parfait.
Voilà, ce sera simple. Comment vas-tu? Comment appréhendes-tu cette émission?
Bah très bien, écoute, moi je passe une bonne soirée déjà, ça commence, mais je vous écoute, je prends plaisir à découvrir Maxou, puisque c'est comme ça qu'il faut l'appeler, j'ai compris.
Non, on va l'appeler Maxou. j'ai fourché sur son nom, mais...
Non, mais c'est parfait, tu me donnes matière déjà à commencer à me moquer.
Ok, tu me cherches, vas-y, je me chauffe là.
Jarel, c'est à toi.
Faites peur, et c'est un plaisir d'être avec vous ce soir pour une grande première pour moi.
Voilà, Bruno, donc, de Play 3 Live. Enfin, troisième et dernier invité de cette émission, et pas des moindres, puisqu'il s'agit du rédacteur en chef du site Nintendo Différence. Il s'agit de Kiklox, alias Jérémy. Jérémy, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, je suis ravi, tu es avec nous, parce qu'on avait quelques soucis avec toi. On te perd régulièrement, alors il se peut qu'on lui donne la parole et qu'il ne réponde pas pendant cette émission.
Exactement, non mais ça je ferai exprès, tu vois.
Alors toi, tu vas représenter Nintendo, bien évidemment, et toute la communauté des joueurs Wii et DS.
Non, pas du tout, non.
D'accord.
Pas.
tu as peur,
on a
comment
personne, je...
En même temps, ils s'en foutent derrière des consoles, de toute façon, il l'a gagné, donc...
On est donc 5 réunis autour de cette table virtuelle pour débattre sur ce sujet parfois sensible, qu'est cette guerre des consoles. Alors, on n'est pas là pour se taper dessus, bien entendu, c'est pas l'objet de l'émission.
Oh, mince,
quoique, quelques grossièretés bienvenues, bien placées, allez, quelques traces de sang, ça pourrait faire monter l'audimat aussi. Donc, vous pouvez vous lâcher de temps en temps aussi, ça peut faire son impression. Les présentations sont donc faites. Alors ce thème de la guerre des consoles, c'est pas un sujet simple à aborder. Avant de parler de ce qui se passe aujourd'hui et de l'actualité trépidante du moment, avec notamment ce bras de fer entre la PS3 et la 360, sans oublier la Wii aussi, hein, que ces deux concurrents regardent jalousement, je vous propose qu'on fasse machine... Ah quand même, la preuve, on en parlera tout à l'heure. Je vous propose qu'on fasse machine arrière. La guerre des consoles, c'est pas nouveau, hein. Ça fait quoi, au moins une quinzaine d'années qu'on en entend parler?
Ouais, plus même.
Ouais, je pense plus.
Depuis que le jeu vidéo existe, a priori. Hein.
Ouais, depuis le début des années 80, notamment.
Après le crack du jeu vidéo, moi je dirais...
83, 84.
Ouais, 83, 84. Ouais.
Qu'est-ce que t'entends par le crack du jeu vidéo?
Bah, en fait, avec l'arrivée des Japonais sur le marché, quoi. Je pense que du temps d'Atari et de Magnavox, il n'y avait pas trop de guerre des jeux vidéo, quoi. C'était Atari, point final.
Disons que si tu parles d'Atari, il y avait quand même une grande guerre qui a sévi à l'époque, c'était la guerre Atari Commodore avec l'Atari Amiga.
Là, ouais, voilà, Atari Amiga d'un côté, c'est vrai, c'était peut-être le début de cette guerre.
C'est la guerre de sécession, mais c'est les micro-ordinateurs familiaux ont connu une bonne place dans les foyers à une certaine époque. Bon, après, ça s'est passé aux consoles. Quand on voit justement les magazines qui était à l'époque Tilt et autres, pour ne citer que lui, c'était essentiellement micro, et il y avait cette petite guéguerre.
Clairement. Alors, de mon souvenir, Amiga c'était mieux. Moi j'avais un Atari, hein, pas de chance, mais Amiga c'était mieux. Et les arguments, c'était surtout au niveau des graphismes. Bon, c'est souvent un argument qu'on reprend.
Je sais pas, j'avais un Amstrad à cassette, moi, donc j'avais ça génial.
Tu pouvais pas lutter dans cette guerre-là. Non. Oui, l'Amstrad à cassette, effectivement, avec l'Alligator, qui était la mascotte d'Amstrad. Donc, on va revenir sur les grandes batailles, les grands épisodes de cette histoire de la guerre des consoles. On va pas pouvoir parler de tout. On va donc se concentrer sur les grandes victoires, et puis surtout c'est le plus amusant aussi de parler des grandes défaites de cette histoire des guerres des consoles. Il y en a eu pas mal. Il y a eu vraiment des écorchés. On pourrait commencer par quoi? Peut-être, donc on a commencé déjà avec, on n'est pas sur les consoles, mais quelque part, c'est vrai que moi j'avais un Atari, à part jouer, je faisais pas grand chose avec. Non, c'est vrai.
Oui, mais ça, de toute façon, les ordinateurs familiaux, c'était pas pour faire enfin, rares sont ceux qui faisaient du basique, mais il y a toute une scène quand même de jeunes programmeurs, de démos qui ont vécu sur l'Atari et sur l'Amiga, et cette scène vit encore. Et travaille maintenant dans des boîtes de jeux vidéo que l'on connaît, bon, pour ne citer que Starbreeze, Yo Interactive, enfin les boîtes des pays de l'Est, enfin et des pays on va dire germanophones sont issus de ces scènes-là. Donc,
très bien.
Bon, ça c'était un petit aparté. Mais
merci pour ces précisions, Jarel. Jarel est le spécialiste. Vous allez voir, c'est assez impressionnant.
Ouais, c'est parce que je suis vieux.
C'est notre Pierre Tchernia de l'émission.
C'est ça, c'est ce que j'aime chez lui. On va se recentrer sur le débat qui nous intéresse réellement. On va donc peut-être commencer, à mon avis, on pourrait commencer avec Nintendo et Sega, je pense. Hein.
Ouais,
je crois que
avec la Master System.
La première vraie guerre des consoles, si on peut dire.
Ouais.
Voilà, je pense qu'on va laisser parler Jérémy un petit peu, représentant de Nintendo. Écoute, brandis l'étendard de Nintendo. La NES, la Master System, donc à l'époque, c'était Nintendo versus Sega. C'est vrai qu'on avait ces deux consoles. Est-ce qu'on pouvait vraiment parler de guerre? Est-ce qu'il y avait déjà à l'époque, comme on le voit aujourd'hui, des gens, des consommateurs qui disaient ma console est mieux que la tienne, achète plutôt celle-là? Est-ce qu'il y avait une vraie guerre, selon vous?
A priori, je pense, moi, que la guerre à l'époque avait pas.
prenait tout son sens plus à l'époque qu'aujourd'hui. Si on se souvient bien, encore des publicités, même Sega, Nintendo, plutôt Sega d'ailleurs agressive et à l'encontre de Nintendo. Et on se souvient aussi également des méthodes.
Alors justement, excuse-moi, je me souviens pas de ces publicités. Est-ce que tu peux détailler un petit peu qu'est-ce que justement Sega avait mis en place dans ses pubs?
Alors, on se souvient tous du slogan Sega, c'est plus fort que toi.
C'est vrai.
C'est clair.
Plus fort que toi. Et des pubs punk, rétro, agressives avec des hommes qui font un speech à l'égard d'une console qui s'avère ne pas être pour les enfants, à l'encontre d'une console Nintendo qui justement semble être visée, enfin semble viser les enfants.
Ah, déjà à l'époque, Sega disait que la NES était plus orientée jeune public.
Alors disons qu'en fait, à première guerre des consoles, la NES, non, la NES en fait c'était.
Ouais, parce que j'ai quand même le sentiment que les consoles, un peu comme les deux ordinateurs dont on parlait juste avant, l'Amstrad, l'Amiga, proposaient, on va dire quasiment le même panel de jeux. C'était un petit peu les mêmes jeux qu'on retrouvait sur les deux consoles avec quelques exclusivités, mais dans l'ensemble c'était assez similaire.
Ouais, voilà, la Nintendo aussi. Bah, la Nintendo elle s'est vendue par millions d'exemplaires. Sega, pour riposter, devait trouver un autre marché. Et évidemment, on pouvait pas se battre sur le même marché que Nintendo qui était déjà omniprésent. Ils ont donc inventé une mascotte, Sonic, Sonic par exemple, ou Alex Kidd, qui sont des mascottes mais antithèse de Mario, de Daisy, Peach, Luigi. Ils sont plus agressifs. Sonic va vite.
Ouais, ça va vite.
Voilà, impétueux. Donc c'est différent. C'est un autre public cible. Et d'ailleurs, je pense que c'est venu comme ça, au fur et à mesure, tout doucement.
Des deux consoles, laquelle était sortie en premier entre la Master System et la NES?
Ouais, j'aurais dit la NES.
Ouais, la NES. Hein. Oui, la NES.
J'ai des chiffres si ça vous intéresse.
Vas-y, balance.
La NES s'est vendue à 62 millions d'exemplaires, alors que la Master System s'est vendue à 13 millions d'exemplaires.
Ouais, d'accord, ce que j'allais dire, à Nintendo, c'était quand même plus de 80% du marché à l'époque, donc... Je sais pas si on peut vraiment parler de guerre à ce moment-là. C'est peut-être...
Oui, surtout qu'en fait, Sega ne rivalisait pas auprès de Nintendo sur le Japon. Ils étaient plus présents aux États-Unis et en Europe.
Ouais, au Japon, c'était 98% Nintendo. Hein. C'était plus de 90% du marché. C'était.
De toute façon, ça n'a pas vraiment changé aujourd'hui. Le marché asiatique est un marché à part.
Ouais. Donc on pouvait pas vraiment parler de guerre, en même temps victoire écrasante de Nintendo à l'époque, et ça a dû continuer puisque donc de la NES est arrivée ensuite la Super NES et Master System est arrivée la Mega Drive. Est-ce que le même schéma s'est reproduit? Je pense, moi dans mon souvenir, alors, c'était à peu près similaire.
J'ai encore des chiffres.
Alors, mais vas-y, ça va alimenter le.
J'ai vendu 49 millions d'exemplaires pour la Super Nintendo et 35 millions pour la Mega Drive. Donc l'écart se resserre déjà.
Ouais, c'était très resserré. Hein. C'est surtout quand.
C'est vrai que là, du point de vue technique, bon, à part le mode 7 de Nintendo, il y a chaque console avait ses forces et ses faiblesses et c'était un petit peu plus ténu. Là en plus la Mega Drive était sortie avant la Super Nintendo, donc avait eu le temps de s'installer déjà un petit peu.
Est-ce qu'on peut parler justement de ses forces et de ses faiblesses justement? Donc tu parlais du mode 7 effectivement, qui était cette fausse 3D proposée par la Super NES. Il y avait aussi des licences fortes, des jeux, des mascottes, on en a parlé. Quels étaient justement les moyens utilisés par d'un côté Sega, la propagande publicitaire aussi, hein, Sega d'un côté, donc Nintendo de l'autre, pour réussir à capter comme ça des consommateurs?
Sega, je pense, n'a pas cherché à vraiment percer au Japon leur intelligence à cette époque-là. C'est justement ce que disait Jérémy tout à l'heure, c'est d'avoir cherché plus à percer en Europe qu'aux États-Unis. Et bah, ils ont pas mal réussi en ce sens-là et ils se sont attaqués à Nintendo indirectement, en sortant des jeux un peu plus hardcore, un peu plus violents, alors que Nintendo, c'est quand même toujours un peu la mascotte familiale, c'est toujours les mêmes franchises qu'on retrouve depuis la NES, même encore aujourd'hui sur la Wii. Donc, il n'y avait pas de jeux vraiment violents, de jeux sanglants. Ces jeux-là, on les retrouvait vraiment sur la console de Sega. Ils ont misé pas mal là-dessus, je pense, à cette époque-là.
Ouais, les jeux de baston, beaucoup plus aussi.
Ouais,
même
voilà,
si Street Fighter était accessible, disponible sur les consoles de Nintendo. Mais c'est vrai que voilà, Mortal Kombat était un jeu sanglant.
Voilà. Ouais, voilà. À noter aussi que Sega en profitait de son panel de jeux arcade, qui était donc très populaire à l'époque, ou même au Japon, pour les ressortir sur sa Mega Drive.
C'est vrai que c'était un miroir
des capacités des consoles. C'était d'adapter ces machines d'arcade qui nous faisaient tous rêver à l'époque et dont on rêvait qu'une chose, c'est d'en avoir une à la maison. Et c'est vrai que la licence, le portage de Street Fighter sur la Super Nintendo avait fait un grand bruit, quoi. Hein.
Ouais. La guerre, en fait, elle avait plus lieu à l'époque dans les salles d'arcade que dans les salons, justement. Moi, j'ai pas souvenir à l'école, vraiment, quand j'avais la Master System ou la Mega Drive, de me chamailler un peu avec mes copains de l'époque. On parlait pas console dans la cour. Et par contre, au niveau des salles d'arcade, il y avait plus une vraie concurrence avec les joueurs qui préféraient les jeux Sega, les jeux Nintendo. Enfin, là-dessus, il y avait peut-être plus un clivage parce que les joueurs se rencontraient. Alors que dans les salons, il y avait pas de multi à l'époque, donc,
Oui, et le online, enfin le online, les forums, Internet n'existait pas, donc il n'y avait pas ce moyen communautaire, cette force communautaire, on en parlera tout à l'heure.
Hein. Et peut-être qu'à l'époque, on regardait vraiment plus les jeux, et on n'avait qu'une envie d'un certain côté, c'est de posséder les deux consoles, et on était très ravis, soit de pouvoir s'échanger, quand on avait un copain qui avait la même console, s'échanger les jeux parce qu'il coûtait la peau du cul, ou alors d'avoir un copain qui avait l'autre console pour pouvoir essayer aussi les autres titres. On s'invitait mutuellement, il n'y avait pas vraiment de tension, mais c'était juste le plaisir finalement de venir jouer à l'autre console chez le copain et ainsi de suite. Parce que c'était un cercle aussi restreint, il y avait peu de personnes qui avaient des consoles à l'époque. Hein.
Il faut voir un autre paramètre qui est intéressant, parce qu'effectivement moi aussi j'ai le souvenir d'être, donc j'étais enfant, et effectivement c'était gentillé, j'allais chez mes potes qui n'avaient pas la même console que moi, mais c'était pas grave, on s'en foutait, on jouait quand même, l'important c'était le jeu, on était jeunes. Aujourd'hui le public est plus âgé aussi, hein. Je crois pas que...
Aussi.
Donc il y a ça aussi, hein. À l'époque les consoles ça touchait quoi? Ça touchait les 8-15 ans, on va dire, 8-17 ans,
voilà, ouais.
Un peu plus âgé.
Est-ce que l'animosité entre les communautés vient de quelle classe d'âge finalement ça
on essaiera de réfléchir à ça un peu plus tard. On va voir ça plus tard.
Peut se demander si justement cette animosité n'a pas démarré des éditeurs, des créateurs des consoles eux-mêmes, si c'est pas eux qui ont lancé cette vague de guerre entre les deux.
Je vous propose qu'on garde tout ça pour un peu plus tard dans l'émission, effectivement. On va continuer ce petit historique de la guerre des consoles, parce que donc là on était avec donc Nintendo et Sega. On peut pas parler de toutes les consoles, il y en avait d'autres à l'époque, on aurait pu parler peut-être de la Neo Geo aussi, qui existait déjà. Non, elle est arrivée plus tard.
C'est une super bonne console d'ailleurs.
Notre catégorie. Ouais, hein.
Peut-être la meilleure de son époque.
Mais qui a pas
vendu à 1 million d'exemplaires seulement.
c'est sur le dossier l'histoire des consoles de P3 Live, ça, non?
Ça, c'était la rose, des consoles. Quoi.
Ouais.
J'avais un copain qui en avait une, c'était le bonheur. Quoi. On aurait passé tous les week-ends chez lui.
On va pas détailler toutes les autres consoles qui tentaient de sortir la tête hors de l'eau à l'époque. Un troisième larron est arrivé sur le marché, c'est Sony qui est arrivé quasiment à la fin de la Mega Drive avec sa PlayStation. Et là, ça a été une vraie révolution et on va le voir. Sony, tour à tour, a défoncé pas mal de consoles avec sa première Play et puis ensuite la PS2. On va faire le point. Là, il y a pas mal de... Je crois que la guerre s'est vraiment mise en route à ce moment-là avec l'arrivée de Sony, très agressive sur le marché.
En même temps, Sony a démocratisé le jeu vidéo. Il l'a rendu, on va dire, en quelque sorte accessible au plus grand nombre. Donc, c'est normal qu'en ayant plus de personnes qui jouent aux jeux vidéo, qu'il y ait forcément une guerre plus grosse.
Alors là, il va falloir que tu m'expliques pourquoi et comment Sony a réussi justement à... Enfin, ce que tu entends par le fait qu'il ait réussi à rendre le jeu vidéo plus accessible.
Énormément d'éditeurs tiers, un support CD plus facile pour les gens, parce que par exemple, bon, c'est pas bien, mais il y avait énormément de PlayStation pucés, donc les gens pouvaient jouer énormément gratuitement. Donc ça contribue. Indirectement.
Mmh. Énormément.
Puis c'était la première plateforme multimédia aussi à l'époque.
Ouais. Et puis il y a le pouvoir marketing aussi et de communication de Sony à l'époque que n'avaient pas du tout les autres fabricants de consoles en culture. Et c'est ça aussi qui a fait très mal, c'est que Sony a communiqué sur sa console d'une manière totalement différente par rapport aux autres aussi. Ouais. Et ils ont s'imposé par rapport à ça.
C'est vrai. En tout cas, donc, la PlayStation est arrivée avec, en face d'elle, il y avait quoi? La Mega CD, enfin l'extension CD de la Mega Drive.
Il y avait la Jaguar.
Il y avait quelques consoles sur le marché et Sony a dépassé.
J'ai entendu parler de la Jaguar. Faut savoir que la Jaguar, c'est la console qui s'est le moins vendue de toutes celles qui sont sorties. Elle s'est vendue à 250 000 exemplaires, donc c'est ridicule.
Et je ne suis pas d'accord, monsieur. Ce n'est pas la Jaguar qui s'est le moins bien vendue.
Ah,
c'est
tu as pire. J'ai pas pire.
J'ai pire que ça. Il y a la Pipin d'Apple. qui s'est vendue à 45 000 exemplaires dans le monde. Et il y en a une autre, il faudra que je la retrouve, on en parlera peut-être un petit peu plus tard, mais qui a été une catastrophe aussi, mais à l'époque de la PS2, il me semble, on en parlera.
Ah, d'accord, on va en parler juste après. Donc elle est arrivée face à la Mega CD. Je crois que Sega a sorti sa Saturn pour entre guillemets contrer Sony. Hein. Il voulait rester sur le marché avec une nouvelle technologie, donc qui était le CD. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Pourquoi?
Alors, attention, le CD n'est pas une nouvelle technologie. Il y avait déjà pas mal de consoles qui avaient un support CD.
La 3DO notamment.
Il y avait des extensions CD sur la Mega Drive déjà. La Mega CD.
Et la Philips CDI.
La Philips CDI, oui. Avec ses magnifiques jeux.
Alors, okay, je vais parler d'une console. C'est la première console qui a disposé d'un lecteur CD. C'est la FM Tone Smarty, qui est sortie au Japon, qui était éditée par Fujitsu en 1991.
C'est un autoradio?
Non, mais ça ressemble un peu à ça. C'est une console. C'est la console sur laquelle a été développé le plus de jeux pornographiques, en fait.
Excellent.
Une spécialité japonaise.
Une spécialité japonaise, bah, comme elle est sortie qu'au Japon. Et Dragon Quest 4, qui a été son meilleur jeu. Ah, c'est la première qui avait un lecteur CD.
Mais en tout cas, Sony a défoncé la Mega CD, a défoncé la Saturn, a défoncé la Nintendo 64 aussi. Nintendo.
Est-ce que tu veux des chiffres?
Oui, vas-y, ça peut alimenter la discussion. Allez,
donc la PlayStation. Alors attends, je vais monter au fur et à mesure. La Sega Saturn s'est vendue à 10 millions d'exemplaires. La Nintendo 64 s'est vendue à 32 millions d'exemplaires. Et la PlayStation a effectivement tout balayé sur son passage avec 100 millions d'exemplaires. Pardon.
Énorme.
Donc.
C'est vrai que pour un début dans le jeu vidéo, il y a Sony qui a totalement imposé sa marque. Il y a notamment justement avant la, il y a en fait le mot généraliste qui utilise le public, on va dire le grand public en parlant console. Quand on parlait d'une console à une certaine époque, on disait le gamin va jouer à la Nintendo. Peu importe quelle console il est vraiment. À l'époque de la PlayStation, il va jouer à la PlayStation. Peu importe qu'il ait autre chose ou autre, c'est quand tu dis il va jouer à la console, il va jouer à la PlayStation. Et ainsi de suite, t'as le terme générique qui a changé, qui a bougé. Aujourd'hui, c'est encore la PlayStation, quoi.
C'est vrai que c'est resté dans le.
Ouais, là oui. Maintenant c'est là oui. Ouais. Maintenant c'est là oui.
Il y avait un truc aussi quand même qui faisait très mal. Hein. On retrouve un peu. C'est marrant parce que comme quoi l'histoire se répète. Mais la Saturn à l'époque de la sortie de la PlayStation coûtait quand même 500 €. Alors que la PlayStation est sortie à 300 € aussi. Hein.
Tiens.
Ouais. À l'époque, Sony avait une politique des prix un peu plus agressive qu'aujourd'hui, on va dire. Non, mais ça a fait beaucoup de mal à la Saturn.
Regarde aujourd'hui, la PlayStation 3 a démarré à 500 € et 600 €.
Ouais.
La Xbox à 400 et pourtant elles sont au coude à coude. En termes de vente, donc l'histoire ne se répète pas tant que ça.
On va justement continuer sur notre petite historique et on verra justement après quels sont les fruits de cette histoire. La Dreamcast ensuite face à la PS2, ça a été une des grosses batailles avec l'échec fracassant de Sega. Ça l'a complètement détruit d'ailleurs. Qui veut nous en parler un petit peu? Je pense que Jarel doit avoir quelques.
Oui, enfin à l'époque de la sortie de la Dreamcast, finalement il y avait même si ce Sony était déjà très implanté. La Dreamcast avait percé avec une console quand même qui était
sortie avant. La Dreamcast est sortie un an ou deux avant, je me souviens plus exactement.
Et vu que Sony avait eu du retard pour la sortie de la PS2, ils ont fait toute une grosse campagne de pub. Ils avaient les moyens pour dire ne craquez pas à Noël, ça va sortir bientôt. Attendez la PS2 qui va être. Enfin.
Alors moi j'ai un souvenir très concret de cette époque. Moi j'avais craqué pour la Dreamcast qui était vraiment une claque à l'époque. Voir Sonic comme ça en 3D, enfin c'était exceptionnel. Et effectivement, Sony
avec
à côté
du
de ça.
Jeu sur Internet.
Avec en plus, oui, c'est arrivé tranquillement derrière. Mais c'est vrai qu'au lancement de la console, on avait une console vraiment, c'était fabuleux. À côté de ça, effectivement, Sony, comme le disait Jarel, nous proposait des visuels et tout le monde disait, ouais, regardez ce que la prochaine PlayStation va être capable de faire. En fait, Sony nous balançait systématiquement, essentiellement.
Des cinématiques
de Final Fantasy, des choses. Fantasy.
Ouais, bien sûr.
Des choses comme ça.
Non, mais ils ont exagéré les caractéristiques de la PS2, hein.
Le bruit courait que la PlayStation 2 allait être capable de, enfin, devait être plus puissante que la plupart des ordinateurs, les plus puissant du monde, enfin c'était très exagéré.
Et ce qui a fini de tuer la Dreamcast, ça a été finalement le support DVD de la PS2
aussi.
Ouais, clairement, ça fait très mal. Ouais.
Surtout que la PlayStation 2 est arrivée avec des jeux à l'époque qui étaient vraiment pas terribles. Les premiers jeux, le premier meilleur jeu à l'époque, c'était SSX, si je me souviens bien.
C'était pas mal.
Il était bien. Ouais, non, mais celui-là était bien. Il a fallu attendre, je crois, un an avant d'avoir déjà des bons jeux. Effectivement, tout le monde disait, mais la PS2, ça va venir. Il faut 5-6 ans avant qu'on arrive à la maîtriser.
Tu ne crois pas si bien dit. Enfin, on en reparlera tout à l'heure, mais effectivement, l'histoire se répète.
Je crois que ce qu'a tué la Dreamcast, c'est la Saturn, en fait. Enfin, moi, personnellement, si je peux raconter ma vie aussi, j'avais choisi la Saturn parce que j'ai toujours eu des Sega. Avant, j'avais eu la Master System, la Mega Drive, donc je suis allé naturellement sur la Saturn plutôt que la PS. Et ça a été quand même une assez grosse déception. Et puis, il y a eu le raz-de-marée PlayStation, l'arrêt de la Saturn assez tôt. Et c'est vrai que avant j'hésitais un peu quoi à me relancer dans l'aventure Sega quoi, donc j'ai attendu la PS2.
C'est vrai que déjà ça avait cassé l'image un petit peu de Sega, et en plus je pense que Sega avait déjà pris une bonne claque avec cet échec de la Saturn et que la Dreamcast était entre guillemets sa dernière carte. Sega finalement est resté dans la course en tant qu'éditeur et tant mieux.
Et c'est dommage, Sega a quand même vendu une super console. Hein.
Ah, Sega a quand même vendu plus de Dreamcast que de Saturn.
Et moi j'avoue que j'ai un rêve profond, c'est que Sega ressorte une console un jour. Mais bon.
Oh là.
Ils ressortent pas la Dreamcast au Japon actuellement. Enfin, sur des petits packs. Entendu dire qu'ils ressortaient la Dreamcast.
Mais c'est ça qui est impressionnant, hein, elle est toujours vivante en fait, la Dreamcast, elle est toujours programmée underground,
elle a marqué les esprits au moins, dure.
J'en ai une et j'y joue régulièrement, pour tout vous dire.
Elle avait des titres qu'ont beaucoup marqué, quoi.
Oui, et puis on avait tout le catalogue des jeux d'arcade qui étaient de la bande Naomi notamment, qui étaient reportés sur cette console, et on pouvait jouer à des jeux comme Crazy Taxi, Virtua Tennis et j'en passe, qui étaient c'était exceptionnel de pouvoir avoir joué à ça chez soi. House of the Dead.
Et c'est une des rares vieilles consoles à passer très très bien sur des télés HD
ou des écrans de PC.
C'est même la seule. C'est parce que bon, la PS2 c'est moche, la Xbox c'est moche, la GameCube c'est pas terrible aussi. Donc mais par contre, la Dreamcast c'est nickel quoi. C'est
même là où il y a un petit peu de mal, hein, je crois. Mais bon. On va parler aussi de la GameCube, parce que face à la PS2, elle en a défoncé des consoles, la PS2. La GameCube.
C'est pas trop tôt pour parler de la Wii, excuse-moi, parce que tu me dis on parle de GameCube.
Non, mais la GameCube est sortie, si je me trompe pas, pendant le règne de la PS2.
Raison. Exactement.
Hein, c'est bien ça.
Tu crois pas si bien dire quand tu dis que la PlayStation 2 a défoncé pas mal de consoles, parce qu'en fait, elle a défoncé toutes les consoles. C'est la console qui s'est le mieux vendue au monde.
Et qui se vend
plus,
encore.
Plus
et
même que la Game Boy. Ouais.
Et qui continue à se vendre en tout cas.
Et plus que la première PlayStation.
La première PlayStation s'est vendue à 100 millions, la PS2 s'est vendue à 120 millions. Et la Game Boy, 118 millions. Donc c'est.
Ouais, la Game Boy, si tu cumules toutes les Game Boy et toutes les Game Boy Advance.
On va parler de la guéguerre des consoles portables, hein, qui existe aussi, à moindre échelle, mais elle existe. La PS2 donc a défoncé la Dreamcast, a défoncé la GameCube, elle a défoncé la Xbox aussi, la première.
Elle l'a érodée.
Mais je parle pas forcément au niveau des chiffres, même en termes d'image. En termes de reconnaissance,
c'était timide, hein, la Xbox, c'était vraiment un coup d'essai. Enfin, moi je l'ai vu comme ça, en tout cas,
elle a une durée de vie très courte et pas une durée de vie qui s'est finalement effacée suite à peu d'intérêt ou alors totalement dépassée techniquement, mais ça a été une durée de vie qui a été presque imposée par le constructeur, par Microsoft lui-même.
Ils ont arrêté de la fabriquer et de la suivre.
D'ailleurs, dans l'histoire justement de la durée de vie des consoles, la Xbox, c'est pas celle qui a été la première. Hein. C'est pas celle qui a été commercialisée le moins longtemps de toutes.
C'est 6 ans.
Lancement
2001, arrêt de production fin 2007 quand même.
Ah quand même, je pensais que ça avait duré 4 millions. Ans l'histoire Xbox, moi, dans mon souvenir. Bon.
En tout cas,
c'est peut-être la Dreamcast qui a duré le moins longtemps finalement.
Peut-être.
Ouais, je pense. Ouais.
Dans cette période-là, on peut aussi parler de la naissance aussi des communautés Internet. Vu qu'on tombe en plein dedans là, et c'est la PS2 a réussi aussi à avoir une grosse communauté via Internet, via les forums et autres, avait déjà réussi à installer, à faire sienne l'Internet, et ça grandement.
Et c'est un peu ce qu'ils ont réussi à faire aussi Microsoft avec leur première Xbox. Ils sont peut-être mal tombés, ils ont peut-être mal géré, mais en fait c'était un coup d'essai, comme tu disais tout à l'heure, Maxou. En fait, en sortant la Xbox, ils ont lancé des grands titres. Grâce à Internet, ils se sont forgés une petite communauté qui les a suivis.
C'est clair.
Ils ont fait des titres qui sont phares, qui ont marqué, et qui finalement perdurent encore jusqu'à aujourd'hui sur la 360.
Il y en a qui avaient la Xbox première du nom.
Oui, moi je l'ai eu.
Moi aussi.
Et vous aviez le live.
Oui.
À la fin.
Moi, je l'ai eu, oui, tout de suite.
Les heures passées sur un Rainbow Six.
Ça a été mes meilleures heures de jeu en ligne, moi. La Xbox, c'est un de mes plus grands souvenirs. Ouais, tout à fait.
Il fallait quand même avoir une certaine somme d'argent derrière, parce qu'il fallait acheter une console qui coûtait assez cher, il fallait payer l'abonnement live. C'était quelque chose qui freinait beaucoup les plus jeunes joueurs, on va dire, qui pouvaient soit pas le payer, soit pas convaincre leur mère de payer l'abonnement. Du coup, on se retrouvait avec une communauté assez âgée et ça rendait les choses, on va dire, plus conviviales, plus sympathiques. Et on se faisait des amis qui duraient dans le temps. C'est-à-dire que quand tu te branchais la première fois sur le live de la Xbox, tu te fais un pote et 6 mois après tu joues encore avec la même personne.
Et puis il faut voir autre chose, c'était finalement, même si la PS2 a fait des tentatives online, c'était quand même la première console à proposer un vrai mode multijoueur en ligne. La Dreamcast l'avait fait aussi à moindre échelle. Moi j'avais commencé mes premiers pas en ligne sur une console, c'était la Dreamcast, mais on en était quand même très loin.
Pour du 56K, elle se débrouillait pas mal hein, quand même.
Il était très mal exploité son mode.
Oui, c'était très suffisant pour jouer à. C'était quoi le jeu avec les petites souris déjà? Chouchou Rocket.
Et Phantasy Star Online quand même, moi ça a été une.
Il était très bon.
Non, mais j'ai le souvenir d'avoir appelé ma belle-sœur, allume ta Dreamcast, mets le jeu, et on s'organisait des parties comme ça, on se téléphonait pour dire on se retrouve sur le jeu. On pouvait pas se parler, hein, il y avait pas de micro à l'époque, c'était donc sur Dreamcast. Mais là je raconte ma vie. Mais c'est vrai que non, la Xbox a apporté des éléments pour le multijoueur qui n'existait pas avant, le micro, des choses comme ça. Même s'il y a eu un micro sur Dreamcast,
il y avait aussi un clavier.
Oui, il y avait le clavier sur Dreamcast, une souris aussi, mais c'était pas très exploité.
Et là, je pense aussi, enfin par rapport à l'apparition de la Xbox, on a vu d'un certain côté là le début d'une relation très agressive sur les forums entre les possesseurs de PS2 et les possesseurs de Xbox.
Ça commençait, ouais. Et je pense que
ça commençait déjà à ce moment-là. Bon, la Xbox n'était qu'un PC trafiqué voilà quoi.
Et justement, il y a peut-être deux mondes aussi qui se sont un peu affrontés à ce moment-là. Je pense que la communauté Xbox qui jouait en réseau, elle est venue beaucoup du PC. Et les gens qui étaient sur PlayStation 2 venaient plus de la continuité de l'histoire des consoles, en fait.
Ouais, tout à fait. J'allais y venir. On a le sentiment d'un côté d'avoir une communauté un peu underground, côté Xbox, et une communauté plus populaire, je sais pas si le terme est bon ou juste,
les
du côté de la PlayStation.
Existaient déjà.
Mais je pense que les casuals existaient déjà, ils étaient sur PlayStation 2. La Dreamcast aussi était
quand tu vends autant de consoles, c'est sûr que t'as énormément de joueurs
occasionnels.
Et pendant ce temps-là, chez Nintendo.
On dit que la Xbox est un coup d'essai pour Microsoft, mais elle a quand même explosé explosé. C'est un grand mot, mais il s'est vendu plus de Xbox que de cubes de Nintendo quand même. Hein.
On va parler un petit peu de la GameCube,
c'est
puisque
25 millions d'Xbox et 22 millions de cubes.
Mais ils avaient bien géré leur coût aussi en intégrant le modem à l'intérieur de la console, ce que n'avait pas fait Sony et ni Nintendo ni Sony. Donc finalement, c'est ça qui les a beaucoup aidés aussi, je pense.
Franchement, le cube de Nintendo, je sais pas ce qu'en pense Jérémy, mais c'est la pire console de Nintendo quand même.
Et moi, je suis pas d'accord.
Moi non plus.
Non, je suis
clairement non.
Je suis pas d'accord non plus.
elle a été que très rarement poussée finalement au maximum de ses capacités.
Voilà, c'est vrai, elle a été mal exploitée et puis bon, il y a quand même le disque 8 cm aussi qui faisait un peu tâche.
Ouais. Oui, mais
ça,
là, je sais pas
si. Oui, mais ça limitait pas les capacités de stockage.
Je me souviens de Rogue Leader quand ils avaient présenté Rogue Squadron, Rogue Leader à l'E3. Tout le monde était sur le cul. C'était l'un des plus beaux jeux du moment à l'époque. Pourtant, c'était sur GameCube. Et il y avait la PlayStation à côté.
Techniquement, dans la boîte, c'était la plus puissante.
Bon, je pense aussi, ouais. Mais après, ce qui a fait mal à la GameCube, c'est pas la console, je me suis mal exprimé. C'est pas la console.
Éditeurs tiers.
Mauvaise, c'est le manque d'éditeurs tiers. Et puis, je pense que les gens ont eu un peu marre de retrouver toujours les mêmes jeux sur Nintendo. Parce que, à part Star Fox Adventure, les Mario, etc. On trouvait toujours les mêmes
et franches. C'est là qu'on revient en fait à ce qu'on a dit tout à l'heure aussi, la mauvaise image de Nintendo qui leur a nuit.
Il faut voir une chose aussi, c'est que comme la Dreamcast qui avait subi un petit peu ce qui s'était passé avec la Saturn juste avant, faut voir que la GameCube arrivait de l'échec cuisant de la Nintendo 64.
Ouais,
donc il y avait quand même
à moitié, mais oui.
Ah, quand même.
Et
autre chose par contre, je pense que la GameCube c'est quand même la dernière vraie console qui n'était qu'une console et rien d'autre.
Elle était mignonne, elle était colorée, ça ressemblait à un carré.
Ouais, était jolie, ouais.
Avec un menu ergonomique.
Elle te proposait de jouer essentiellement.
Il y avait pas une version de la GameCube qui est sortie qu'au Japon.
Le Q.
Ah, je savais bien qu'il y avait un truc
avec un lecteur DVD intégré, toutes ces choses là qu'on attendait tous. C'est vrai que
ça coûtait très cher.
Mais ce qui a joué aussi contre Nintendo, c'est que tout le monde attendait aussi avec la GameCube un lecteur DVD.
Ouais,
a priori, tout le monde se disait on pourra lire les DVD avec cette console, donc j'aurais pas besoin d'acheter l'autre console. Du coup,
et puis clairement, enfin Nintendo à ce moment-là, il se retrouve abandonné par les éditeurs tiers. Hein, c'est-à-dire que ils sont tous partis sur Xbox ou sur PlayStation et il n'y a plus que des jeux Nintendo. Et il y a un truc qu'on a oublié tout à l'heure sans revenir trop en arrière, mais qui aurait pu tout détruire et qui a fait du mal à Nintendo justement et qui a boosté Sony, c'est l'échec de l'entente Nintendo-Sony avec la console qui a été annulée au dernier moment, qui devait sortir en partenariat avec les deux. Et ça a tué Nintendo avec la 64 parce qu'ils ont été obligés de sortir une console en catastrophe. Et au contraire, Sony, ils se sont dit, bah allez, pourquoi pas se lancer dans l'aventure, et c'est là qu'ils ont tout explosé. Quoi.
Et pourtant,
et c'est une charnière. Hein.
Et pour revenir à la 64, qui effectivement était un bide, entre guillemets, c'était quand même une des consoles. Moi, je suis allé vers la 64 plutôt que la PlayStation à l'époque. C'était une des premières qui proposait un multijoueur à 4 aussi, et c'était novateur. C'était une des premières, non, c'était pas la première, enfin, elle proposait aussi un stick analogique, ce qui n'était pas le cas de la PlayStation à l'époque. Elle avait énormément d'atouts, hein, finalement.
La vibration et avec le Rumble Pack.
Voilà, comme ça, avant la vibration DualShock.
Mais ceci dit, même, enfin, tu dis que c'est un bide, mais en même temps, les. Enfin, je pense que c'est le cas pour tous. Nos meilleurs souvenirs de joueurs, enfin, je sais pas, Zelda, Ocarina of Time, Mario 64,
F-Zero,
Perfect Dark.
Carrément, c'était des sommités du jeu vidéo.
Mais je crois que pour beaucoup de joueurs, on peut aussi citer Tekken, Soul Blade, des jeux comme ça. Voilà, Final Fantasy. Sur PlayStation 1, PlayStation 2, il y a quand même eu. Justement, on en a peut-être pas parlé assez. C'est donc Sony qui sort, on va dire. Victorieux de ce de, qui a même régné pendant plusieurs années.
C'est les générations, on est arrivé à une génération PlayStation. C'est évident. C'est encore virulente. Il y a une génération. C'est marrant parce que maintenant c'est vraiment des communautés générationnelles dans le sens où t'as ceux qui étaient avant, on va dire, la PlayStation, ceux qui sont arrivés sur la console au moment de la PlayStation 1, et ceux qui sont arrivés aux consoles au moment de la PlayStation 2. Et maintenant, c'est la génération Wii, quoi. Ceux qui arrivent sur les consoles avec la Wii.
Mais moi, j'ai connu, en fait, c'est la première fois que je connaissais ça avec la PlayStation 2. En fait, c'est une console qui coûtait quand même plus de 3000 francs à l'époque. Il y avait la queue dans les magasins. Moi, je suis pointé au Micromania à l'ouverture dès le matin. Je voulais ma PlayStation 2. Quoi. C'est la première fois que je connaissais ça sur une console. Je l'ai pas reconnu depuis d'ailleurs. Et là, ils ont vraiment créé, je pense. Le premier phénomène autour d'une console à cette échelle-là.
Le premier buzz de l'histoire.
Ouais, un peu. Ouais. Non, mais il y avait des pubs à l'époque, c'était des pubs de folie avec David Lynch, ça voulait rien dire. Enfin, c'était des trucs de fou.
Ouais,
quoi.
Ouais, c'est vrai qu'avant c'était un jeu qui te faisait acheter une console, et là clairement t'achetais la PS2.
Ah ouais, vraiment.
Pas à cause des jeux, parce qu'il y
avait,
non, y en avait pas.
Il y avait rien. Hein. Comme l'a dit Maxi tout à l'heure, il y avait rien.
Tu achetais une console pour la console en elle-même.
Ouais, mais enfin bon, il y avait surtout effectivement une grosse campagne de publicité autour.
T'as le nom, quoi.
La Play était sur tous les bus.
Un lecteur DVD à l'époque, c'est partout. Un peu comme le Blu-ray aujourd'hui. C'était un bon lecteur DVD. C'est un lecteur DVD
qui marche,
qui marchait, mais qui permettait d'avoir un lecteur DVD et une console. C'était pas obligé d'avoir un appareil.
Le bon que tu faisais quand même entre la VHS et le DVD était quand même très important aussi du point de vue technique.
C'est, c'était énorme. Moi, j'en étais au laserdisc à l'époque.
Alors que le DVD ou Blu-ray, le bon est moins important parce que déjà tout le monde n'a pas de télé.
L'équipement.
Il a l'équipement qui va.
C'est moins flagrant.
Parce que nous enfin, si jamais tu avais la chance d'avoir, quand on est jeune, une console déjà, une télé dans ta chambre, c'est pas une télé HD que t'as. Hein.
C'est la télé que t'as récupérée des parents.
Voilà, c'est un 35 cm de diagonale qui marche à moitié.
Tube cathodique.
Grâce à toi, Jarel, on arrive quasiment dans le présent, là, avec, on parlait du Blu-ray, nos nouvelles consoles. Avant ça, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit tour d'horizon aussi de ce qui s'est passé avec les consoles portables. Là, de ce côté-là, je crois que c'est quand même Nintendo qui règne, hein, encore en maître aujourd'hui à ce niveau-là, c'est flagrant, c'est évident. Yep. Nintendo a gagné cette guerre depuis des années en ce qui concerne les consoles portables. Alors, quels ont été les adversaires de Nintendo ? Donc Sega déjà, dans les grands...
Mais ils se sont ramassés aussi la tronche, parce qu'elle avait beau avoir un écran couleur elle était plus puissante, pareil, elle avait pas énormément de jeux très attendus, et puis il y a un truc aussi qui est
30 minutes, enfin, c'était un truc de dingue. Il fallait la brancher sur le secteur pour pouvoir jouer à Columns en plus.
C'était pas possible, quoi. Ils se sont mangés devant la Game Boy.
Devant la Game Boy, on avait aussi donc un peu plus tard la Neo Geo portable, si je me souviens bien, qui était pas mal, une petite console en noir et blanc. Il y avait une version couleur qui était sortie.
Un gros problème encore de piles.
Oui, et puis les distributions des jeux, c'est une console qui a dû bien marcher au Japon, mais en France, pas bien distribuée, peu de jeux. À côté de ça, la Game Boy avec ses petites cartouches, cartonnées carrément. La PSP est arrivée un peu plus tard, donc Game Boy Advance, Game Boy Color, la PSP.
Il y avait la Lance.
Ils ont sorti 50 000 versions de la Game Boy.
Ah bah ça,
PSP,
oui,
Advance, Pocket, Color, ah,
Mini. Ouais. Face à ça, la PSP. Là, on est dans le présent, hein, donc on est face. On a donc la DS, la PSP, l'iPhone qui commence à trouver sa place là-dedans.
Le Game Boy Killer, c'est l'iPhone, je pense vraiment. Il y avait Nokia, si vous vous souvenez, qui avait essayé
avec la Engage,
premier avec le Engage. Bon, ça n'avait pas marché parce qu'il n'y avait pas de jeu, c'était pas très ergonomique et c'était trop un téléphone en fait.
C'était même pas un téléphone. Je sais pas si tu te souviens comment il fallait tenir son téléphone pour téléphoner.
C'était un clavier,
C'était bizarre.
C'était vraiment laid en plus.
Est-ce que tu as des chiffres concernant justement l'iPhone, les ventes d'iPhone et peut-être l'utilisation en tant que console?
J'ai pas les chiffres de vente d'iPhone et d'iTouch, mais je crois que j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois que c'est au-dessus de 100 millions.
Dans le monde, ça doit pas être loin.
Dans le monde, je crois que c'est 120 millions.
Selon vous, face à une DS, face à une PSP, ça se positionne comment? Je pense que la PSP est une des consoles qui fonctionne le moins, même si c'est une très bonne console.
La PSP, le souci, c'est encore une fois le nombre de jeux disponibles.
Voilà, c'est ça. C'est l'UMD aussi. Enfin, c'est l'autonomie, le manque de mémoire interne. Je pense que si Sony, dès le départ, avait intégré une mémoire interne assez importante,
Ils auraient dû sortir la PSP Go tout de suite, c'est ça que tu es en train de nous dire.
Ils auraient dû sortir la PSP Go, sauf que la PSP Go, elle a plus de support physique maintenant non plus. Ouais. Donc là, je sais pas si c'est une bonne idée. Enfin, on verra.
Je sais pas comment ça va marcher parce que moi, j'ai toujours vu la PSP comme une console d'un certain côté underground où, pour moi, la PSP, c'est l'émulation, c'est l'émulation, c'est la Super Nintendo, c'est la Mega Drive, c'est les jeux PS1 que tu peux retrouver dessus, tranquille. C'est pas la ludothèque PSP qui m'attire, moi, c'est ce côté underground.
Alors après, c'est la Xbox des consoles portables en fait.
T'as aussi ce qu'essaye de faire Sony, c'est de profiter de la communauté PS3 justement en reliant les deux consoles en fait. Et si ça peut être la chance de la PSP Go d'en faire.
Alors toi qui es rédacteur chez Play 3 Live, tu dois le savoir. Est-ce que c'est quelque chose qui fonctionne justement? Est-ce que ce lien qui est fait entre la PSP et la PS3 fonctionne bien? Est-ce que les joueurs passent
pour
le cap?
Pour l'instant, non, je pense pas. Ça sera le cas. Bon, là, ils vont développer les contenus additionnels avec notamment un lecteur virtuel de comics là qui a été présenté lors du Gamescom.
Parce que ça, c'est quelque chose que fait déjà Nintendo, entre la DS et la Wii, il se passe des choses. C'était quelque chose qu'ils faisaient déjà avant avec la Game Boy Advance et la GameCube.
De toute façon, il y a pas de secret.
Ça a pas vraiment marché. C'est pas un atout réel, quoi. On peut pas dire que c'est ce qui va faire vendre une portable.
Non, pas du tout.
Mais t'auras peut-être un effet avec Gran Turismo 5.
Je pense que c'est ça. C'est Little Big Planet avec en plus du contenu exclusif si t'as la version PS3. Enfin, là, c'est ça, je pense qu'ils vont tout miser là-dessus, c'est-à-dire que s'ils arrivent à faire le lien entre les deux consoles comme ils ont déjà commencé à le faire, mais il va falloir convaincre les joueurs, parce que pour l'instant, non, je ne pense pas que ça soit le cas, effectivement.
Le souci aussi, c'est que la PSP, elle s'est vendue à un peu moins de 50 millions d'exemplaires, mais il y a une grosse partie, c'est aussi des joueurs qui savent qu'elle est très facilement flashable, et encore une fois, jouer gratuitement, ça fait plaisir à beaucoup de joueurs.
Mais si,
ça fait vendre des consoles malgré eux, quoi.
On peut faire un petit aparté juste pour dire que un des points qui a fait que la GameCube s'est ramassée totale, c'était que c'était la seule console qui était en vente qu'on ne pouvait pas pirater facilement.
C'est vrai. Ouais. C'était très compliqué. Il fallait enlever le boîtier pour pouvoir insérer des CD de taille classique. Ouais, c'était très compliqué.
En plus de son prix, je crois que c'est ce qui a freiné aussi le développement de la PS3. Faut pas non plus se leurrer. La Wii et la Xbox 360 sont piratables. On peut jouer avec des jeux gratuitement. La PS3, c'est pas le cas. Bon, elle était déjà chère. Et en plus, on peut pas la pirater. Donc, ça a été un double handicap.
Ah oui, mais c'est le fait qu'une console soit pas piratable est un handicap.
J'ai le souvenir que il y a quelques années justement, Sony, c'est ce qu'ils se disaient, Sony faisait exprès de rendre ses consoles facilement bidouillables, piratables. Est-ce que c'était le cas? Et si c'était le cas, pourquoi est-ce qu'ils l'ont pas reproduit avec la PS3?
Parce que je pense qu'ils ont voulu lancer un nouveau format. Ils avaient déjà lancé plus ou moins le DVD, c'était précurseur, et Sony aime bien lancer de nouveaux formats. Ils se sont souvent plantés d'ailleurs avec ça.
Si tu regardes, ils ont fait le CD avec la PlayStation 1, le DVD avec la PlayStation 2, le Blu-ray avec la PlayStation 3 et l'UMD avec la PSP.
L'UMD,
qui change de support à chaque fois.
Le mini disque le mini disque, c'était eux aussi, non?
Le mini disque, c'était eux. Non, mais c'est un hobby hein, chez Sony, le format.
Les premiers graveurs Blu-ray, là, ils commencent à apparaître sur les PC, mais bon, voilà, c'est des graveurs, on arrive à des sommes genre 300€ pour un graveur, c'est pas encore abordable, mais quand il y aura plus de graveurs Blu-ray dans les foyers, je pense que la
base... Alors, ça tombe très bien, vous parlez du Blu-ray, on va l'utiliser pour faire notre transition vers ce qui se passe aujourd'hui, justement, une des victimes de cette guerre des consoles récente, c'est le HD-DVD, sorti par Microsoft sur sa 360, ça c'est quand même un échec cuisant.
Microsoft m'a tué en fait.
C'est collector maintenant, hein. Là les lecteurs HD-DVD, les HD-DVD justement, ça c'est collector, c'est à mettre en vitrine, hein. C'est intéressant.
Et juste une chose, on a perdu un compagnon. Ouais.
On a perdu Jérémy.
Voilà, je pense que Guillaume attendait un silence pour pouvoir l'arrêter.
Non, j'avais pas vu.
Qui sonne.
Ah, t'avais pas vu. Ah,
alors attendez, voilà, on a perdu Jérémy et on vient de le récupérer grâce à sa ligne de téléphone fixe, donc il a un son téléphoné, mais bon, on va faire avec. Jérémy.
Bonjour. Bonjour Laurent. Laurent Jalabert sur sa moto en direct du Tour de France. Bonjour Laurent.
Oui, bonjour, tout va très bien ici. Je peux apercevoir le maillot jaune en face.
Comment ça va du côté de Nintendo?
Ça va très bien, j'ai le sponsor sur le dos, tout est nickel.
Très bien, donc je sais même plus où on en était. Je crois qu'on avait attaqué, on avait envie de parler maintenant de ce qui se passe aujourd'hui, donc entre la Xbox, la PS3, la Wii, qui sont, on va dire, les trois consoles à se tirer la bourre actuellement. Peut-être qu'on pourrait faire le point aussi sur les armes des constructeurs, on en a parlé déjà.
Voilà, où on pose le flingue sur la table.
Voilà, allez. On va poser le flingue. Première arme, je pense que c'est les prix. On va peut-être le garder pour la fin, les prix. Justement.
Moi j'ai rien à dire. Je me sais.
On va parler de la technologie. On en a parlé un petit peu, donc on l'a dit, lecteur HD, Blu-ray, la puissance des consoles, l'online qui est aussi un élément important, surtout aujourd'hui, les périphériques. Nintendo avec sa Wii, c'est un petit peu ce qui a permis à la Wii de fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui. C'est son périphérique basé sur le mouvement, n'est-ce pas? Vous me coupez hein, si je me trompe. Si
non,
tu as
raison.
Voilà, cet aspect technologique, il est si important que ça pour les joueurs.
J'ai l'impression qu'il est de plus en plus important. Plus les consoles deviennent puissantes, plus c'est peut-être ce que tu vas regarder en premier dans un jeu maintenant, ou voir sur une console. Tu cherches voir quel processeur machin, etc. Si le jeu il est plus aliasé sur une console que sur une autre, enfin c'est vraiment
À côté de ça, on se retrouve quand même on se retrouve quand même avec une Wii. Je vais te laisser la parole, Jérémy, dans deux secondes. Avec une Wii quand même, qui est la console la plus vendue et qui est la moins puissante.
Oui. Effectivement, mais je voulais rajouter un mot à ce qu'a dit mon confrère, c'est que comme les consoles aujourd'hui, à une certaine époque, on s'en fichait un peu des graphismes. Aujourd'hui, c'est l'inverse, parce qu'on a tous plus ou moins des télés à écran plat et CD, enfin ça commence à venir dans les foyers. Donc on a un regard différent sur les consoles. Aujourd'hui, le graphisme devient plus important presque que le gameplay pour beaucoup de gens, même si a priori, la Wii fonctionne car elle a un gameplay proche des familles, jeux de société, donc c'est quelque chose de familial. Mais je pense que ces gens-là, même si ils ont tendance à acheter une Wii, ils regardent quand même d'un petit œil les consoles actuelles et ce qu'elles vont faire plus tard. Oui.
Alors, qu'est-ce qui peut faire qu'une console cartonne aujourd'hui? Donc, la technologie, donc ou le matériel. Donc, on l'a dit, le fait de pouvoir avoir une console puissante. Une image haute définition, un lecteur Blu-ray et le mouvement.
Ouais. Je crois qu'elle est intéressante, la génération de consoles actuelle, justement, parce que chacun des trois constructeurs a vraiment axé sa console sur des choses totalement différentes. Jérémy l'a dit, Nintendo, c'est vraiment le gameplay charmé jusqu'au troisième âge, quoi. Donc là, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup touché au jeu et qui découvrent le jeu vidéo. Microsoft, bah, c'est vraiment à fond la communauté de joueurs. Le online, et Sony, bah, ils ont cherché, je crois, à élargir leur pyramide d'âge, en fait, en allant draguer un peu les quadras avec un lecteur Blu-ray, enfin les CSP un peu plus aussi, c'est-à-dire les gens qui étaient déjà équipés en HD, c'est vraiment la console faite pour draguer les foyers équipés, quoi.
En même temps, la Xbox était la première console haute définition avant même l'arrivée de la PS3. J'ai l'impression plus que Sony est quand même un petit peu à récupérer un petit peu à droite à gauche les idées des autres.
Oui, mais Sony en fait a vendu avec la PS3 un outil technologique et c'était le bel objet, le truc. Enfin, ça s'en impose quoi. C'est comme un Mac quand tu l'as dans les mains, tu vois que techniquement. Techniquement, en finition, c'est génial, quoi.
Tu trouves que ça en impose plus qu'une 360, par exemple?
Du point de vue de l'objet, oui. Justement ça qui est, c'était rigolo quand ils ont présenté la PS3 Slim. Les réactions sur les forums, c'est pas la console c'est génial, elle a baissé de prix, fait moins de chaleur, etc. Non, c'était la réaction majoritaire, c'était elle est moche,
il y a des vrais boutons, ça c'est ça aussi. Ouais. C'est vrai.
Alors c'est vraiment une fois de plus une question de goût. Moi je suis plus attiré par la PS3 Slim que la PS3 d'origine, mais bon.
Ah ouais. Également, je préfère le côté lisse et non pas plaqué aussi de la console.
Ouais. Mais c'est vrai quand tu lis les commentaires un peu sur Play 3 Live, sur le forum, c'est vrai que les premiers possesseurs de 360,
ils vont te lyncher quand tu vas
venir. Ouais, voilà, je crois que je vais me faire tuer. Les premiers possesseurs de la 60Go, le premier modèle qui est sorti, ils étaient vachement attachés au bord chromé, c'était marqué PlayStation 3 en chromé, et déjà les modèles suivants, c'était plus chromé, donc tout de suite ça avait fait parler parce que le chromé c'était plus chic. Et puis maintenant, t'as des petits boutons tactiles, donc c'est cheap, quoi, c'est des petits boutons en plastique qu'il faut appuyer dessus. Et c'est vrai qu'elle est globalement la Slim par rapport aux gens qui ont déjà une PS3 aujourd'hui. Elle est un peu décriée parce que
c'est un peu la Twingo à côté de la Jaguar, quoi.
C'est ça.
Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Non, mais bon, après, c'est une question de goût. Et puis, c'est surtout, je pense, elle est surtout faite pour draguer les gens qui n'ont pas encore de PS3. Quoi.
Bon, avant de revenir vraiment dans ce sujet-là, hein, qui est passionnant, mais qu'on va garder pour la suite de l'émission, j'aimerais qu'on parle aussi de cette autre arme qu'utilisent les différents constructeurs, c'est les exclusivités, les jeux qui sont propres à chacune des consoles. Il y a une vraie guerre entre eux, hein, ça c'est, elle est claire, pour réussir à conserver Sony, j'imagine, son Gran Turismo ou son Metal Gear.
Rendez-nous Kojima.
mais c'est une fausse guerre en fait. Enfin, c'est une guerre. Si tu veux, maintenant développer un jeu, ça coûte genre 20 millions. Ouais, c'est ça, à peu près plus de 20 millions de dollars. Tu peux plus ne sortir un jeu que sur une console, à moins que ton jeu fasse un carton phénoménal sur cette console.
Donc, tu as à dire sur le forum, l'exclusivité aujourd'hui dans le contexte économique, c'est plus possible pour un éditeur. Voilà. Ou alors, faut que ce que Microsoft fait très bien, faut que le fabricant de console allonge les billets, quoi.
C'est ça. Soit t'allonges les billets, soit le mec vient tout seul à toi parce qu'il a besoin de ton parc de console installé.
Mais tu peux plus aujourd'hui la plupart des éditeurs peuvent plus se contenter de développer sur une seule plateforme. C'est quasiment devenu impossible.
Ouais, ça dépend des jeux. En fait, là, maintenant, les exclus vont se passer essentiellement sur le PSN et sur le XLA. Quoi. C'est ça va se baser là-dessus. Ça va être du flow. Enfin, c'est en plus des exclus temporaires. Hein, quand on voit,
je crois que cette guerre des exclusivités, elle a vraiment eu lieu. Enfin, les derniers temps de cette guerre-là, c'était sur la génération de consoles précédentes, PS2, Xbox.
Oui.
Avec, je me souviens que Splinter Cell, par exemple, était une des grosses exclus de la Xbox pour contrer Metal Gear Solid.
Ça l'est toujours.
Il y a quand même toujours une console.
Ça l'est toujours.
Oui, ça sort pas sur PS3.
D'accord.
Non, c'est vrai pour l'instant. Ouais. La Wii est quand même une console où t'as le plus d'exclus quelque part.
C'est vrai que la Wii est une console à exclus. Il n'y a rien d'exclus sur la Wii.
En fait, c'est à cause de. C'est tout con. C'est parce qu'elle a un gameplay propre.
Il faut fournir avec la maniabilité typique de la Wii. Je veux dire, les développeurs même, si on fait qu'à part des graphismes, je veux dire, les développeurs doivent fournir un effort en plus pour que le jeu soit crédible avec la maniabilité Wiimote et Nunchuk. Donc a priori, si on sort un Call of Duty World at War sur Xbox et PS3, et pour l'adapter à la Wii, forcément c'est différent. Donc on va le changer. Le jeu, ce sera plus le même.
Sans parler du gameplay, t'as la franchise aussi. Enfin, les franchises Nintendo sont quand même les franchises les plus fortes. T'as Mario, Zelda, etc.
Il y a peut-être un petit essoufflement quand même par rapport à ces franchises,
ouais,
je pense.
Ouais. Tu dis que ça coûte de l'argent. Et effectivement, ça coûte de l'argent, mais ça vaut le coup de dépenser cet argent parce que en fait, la Wii à elle toute seule représente le même parc installé que la Xbox et la PS3 réunies.
Sauf que quand tu regardes les efforts supplémentaires portés sur des jeux comme World at War, sur Medal of Honor, sur des jeux comme ça, des jeux plus gamers, comme même les derniers jeux de Sega qui sont Mad World et House of the Dead, sont des jeux qui ne sont pas exceptionnellement bien vendus parce que ça touche pas le public de la Wii.
Et ça voilà, je pense que les jeux pour hardcore gamers sur la Wii, les jeux pour gamers sur la Wii sont tous des échecs quasiment. De toute façon, il n'y a pas de secret.
Moi, c'est pas des échecs, c'est des réussites à leur niveau, mais c'est pas une réussite comme par exemple serait un jeu casual ou un jeu Nintendo.
Je parle par rapport au parc installé, si tu
alors, fais. Oui. Voilà, par rapport au parc installé, proportionnellement, c'est un échec, c'est sûr.
Je vais rebondir sur ce qu'on est en train de dire justement pour parler d'une des armes de Nintendo, au-delà du périphérique qui permet justement d'utiliser le mouvement pour jouer, c'est aussi la publicité, qui était une des armes de Sony aussi. Mais aujourd'hui, Nintendo, ouais. Je crois que son succès, il le doit vraiment à ses campagnes de pub.
C'est vrai que c'est la première fois qu'un constructeur arrive à vendre des jeux en ne montrant pas l'écran, mais en montrant les personnes qui jouent sur leur canapé.
Et c'est on voit que Sony commence à le faire avec sa dernière campagne de publicité japonaise.
Pour la PS3 au Japon,
on voit juste les joueurs bouger, enfin, on voit même que leur visage qui bouge, qui réagit au jeu.
Tout est dans la suggestion, en fait. On laisse au public s'imaginer ce que va donner le jeu, en fait, voilà. Grosso modo, le joueur va acheter parce qu'il se demande ce que ça va être, en fait.
Microsoft, par contre, au niveau publicitaire, ça n'a jamais été terrible.
Ça dépend.
Sincèrement, oui.
Aux États-Unis, la publicité.
J'ai déjà le souvenir. On peut peut-être parler des différentes campagnes qui ont pu nous marquer. Moi, je crois quand même que finalement, une des campagnes qui m'a le plus marqué chez un constructeur, enfin, dans cette guerre des consoles, c'était peut-être la campagne Xbox première du nom, qui était trash à mort.
Avec le bébé qui vieillit très vite.
Non, moi j'ai le souvenir de personnages qui avaient des oreilles qui poussaient sur la joue.
Des trucs très PlayStation 2 en fait.
Ouais. PlayStation 2. Ouais.
David Lynch.
Tout à fait, ouais.
Non, mais Sony, c'est clairement perdu en com. Hein, là, ça a été, nous, on en parle souvent sur PS3 Live. Ils ont fait des erreurs marketing, des erreurs de communication ou d'absence de communication. Sur le lancement de la PS3, c'était quand même affolant.
Si on part directement sur la guerre des consoles, il y a quelque chose que je comprends pas chez Sony. Ils ont quand même un patrimoine impressionnant avec les jeux PS1. Ils avaient un patrimoine impressionnant avec les jeux PS2. Et quand on regarde les différences finalement des stores, des différents stores, le store japonais, le store US et le store européen, c'est quasiment du foutage de gueule pour le store européen, alors que je comprends pas comment on peut avoir finalement un classement totalement aberrant pour trouver une démo sur PS3 si elle est pas récente. C'est la croix et la bannière, quoi.
Ouais, ça s'est pas mal amélioré quand même. On pouvait dire ça, je pense, encore il y a 6 mois, mais franchement, le store européen, là, enfin, notamment depuis, depuis avril-mai, ça commence à être.
Ouais, ça
quand même mieux.
Ça commence. Mais ça commence tard.
Bah, par exemple, au Japon, Metal Gear Solid est sorti au Japon, je crois, sur PlayStation Store, le premier.
Oui. Mais aux États-Unis aussi.
Moi, personnellement, c'est vrai que j'ai du mal à comprendre cette différence entre les différents stores où t'as quand même une ludothèque de jeux PS1 sur le store japonais, mais totalement fabuleuse, quoi, qui fait rêver. Tu baves devant et t'en as un petit peu plus sur le store US et t'as 10 titres. Enfin,
je sais pas. Est-ce que sincèrement, les joueurs PS3 iraient télécharger des jeux PS1 qu'on leur vendrait forcément?
Franchement, j'ai téléchargé un jeu PS1. C'est pourtant un jeu extraordinaire. Enfin, à l'époque, c'est Banjo-Kazooie, je crois. Et ça m'emmerde. Et puis en plus graphiquement, franchement, quand un écran plat,
ça a pris un coup de vieux,
c'est une horreur, quoi. C'est horrible.
Autre élément important dans cette guerre des consoles, quelque chose auquel les constructeurs sont très attentifs, c'est le calendrier, les dates de sortie, les dates de lancement, que ce soit pour les consoles, pour les périphériques. Il y a vraiment un jeu là-dessus très important. On essaye de devancer l'autre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que c'est un paramètre qui vous semble effectivement important dans cette guerre?
On voit la course effrénée qu'il y a eu. De la part de Sony pour essayer de contrer le projet Natal, notamment en proposant.
T'as beaucoup d'annonces.
En fait,
aussi,
Nintendo a pris tout le monde de court avec cette histoire du mouvement.
Mais total. Et maintenant, les deux grosses consoles essaient de se trouver.
Quoique Sony avait fait une.
Leur caméra machin. Ouais,
Sony avait fait un semblant avait réagi légèrement avec son 6-axis, là, son système qui permet. Je crois que ça a été abandonné, ça d'ailleurs.
C'était un pis-aller, c'était bon. C'est assez mal utilisé. dans les jeux. C'est assez mal utilisé dans les jeux en plus, donc bon. Non, mais oui. c'est pas le point fort des consoles, enfin de la Xbox ou de la PS3, les accessoires. Hein, quand on voit la webcam, enfin le PlayStation Eye par exemple, qui doit être utilisé dans deux jeux.
C'est pareil pour la vision.
Oui, la vision qui sert pas, effectivement, c'est le genre d'accessoire qui dort.
C'est des consoles qui ont du mal à utiliser leurs accessoires et bah franchement le PS Mode et Natal bah c'est ce que disait aussi Kazirai dans une interview là qu'il a donné au Gamescom et il a raison de dire si le PS Motion sort sans jeu avec, ça sert à rien quoi, autant pas le sortir.
Ouais, il a raison, mais en même temps ce qui est, et c'est là que on va peut-être rigoler ou pas, c'est qu'avec avec les deux accessoires là qui sortent pour les deux consoles haute définition, on va sans doute pouvoir récupérer des licences Wii. Et du coup, si ils se débrouillent bien en termes de licences, s'ils trouvent des bons accords avec les éditeurs tiers, il y a moyen d'avoir dès la sortie de ces accessoires un catalogue assez hallucinant.
Oui, par exemple, j'ai interviewé le responsable, enfin le producteur du jeu Boom Blocks.
Je vois pas, vous voyez, qui est un jeu excellent. Ouais.
Ben oui, voilà. Et donc en fait, je lui avais demandé si, a priori, s'il y avait les technologies, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore entendu parler de Natal et de la PS3 Vote, mais s'il y avait les technologies nécessaires sur les consoles next gen de jouer avec des blocs comme on peut le faire sur Wii, est-ce que ils auraient toutes les raisons de continuer à développer sur Wii ou ils partiraient directement sur la concurrence? En fait, il l'a dit implicitement, mais il a dit non, enfin la Wii est très bien, on se contente de ce qu'on a, mais implicitement il a confirmé qu'en fait effectivement ce genre de jeu se prêterait très 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 bien à ces consoles là, d'autant qu'elles ont un marché potentiel, donc c'est vrai que
Donc avant de faire le point donc sur tout ça, on va peut-être parler aussi d'une autre arme. Je pense que les constructeurs en jouent, c'est donc les fans, l'aspect communautaire, le fanboyisme, hein, c'est un terme qui commence à être à la mode.
Bien sûr qu'ils en jouent.
Cette envie d'appartenir à un groupe et puis de le revendiquer très fortement autour d'une console qui est sa console, qui est la meilleure des consoles. Ces fans là, est-ce que effectivement, on parlait des forums tout à l'heure, est-ce que effectivement, on ressent vraiment cette guerre plus qu'ailleurs?
Ouais, je pense, ouais. Ça s'est développé pas mal avec internet et le développement des forums aussi parce que
c'est ça.
On a le phénomène un peu aussi sur les, enfin même pour les voitures, quoi. T'as les forums Peugeot ou Citroën où les gens sont attachés à leur marque, attachés à leur modèle. Là, on le retrouve sur les consoles. C'est peut-être un peu plus poussé sur les consoles parce que c'est en plus une génération un peu jeune et qui s'enflamme un peu vite.
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, mais je peux me tromper, c'est un petit peu plus polissé qu'avant. Il y a quelques années, c'était carrément Nintendo, c'est de la merde.
Oh, il y a toujours ça.
Ou Sony, c'est de la merde. Toujours.
Il y a certains gros sites français. Si tu regardes un peu sur le forum, c'est vraiment très chaud. Après, sur les sites spécialisés, enfin, je sais pas Maxou comment c'est chez vous, mais enfin sur Play 3 Live, en tout cas, on a toujours essayé de tempérer un peu ça et puis de pas l'enflammer, c'est-à-dire qu'on fait assez peu de com par exemple sur des comparatifs entre la PS3 et la Xbox 360.
Il y a une forme de respect.
Je pense. Et puis de ne pas. Voilà, on est content que la Xbox 360 existe parce que ça fait vu le marché. On est content aussi que la Wii développe le marché des jeux.
Donc certaines façons, ce sont les joueurs, les lecteurs, les gamers qui viennent alimenter finalement cette.
C'est ça. Puis je pense que les marques en jouent aussi quand on voit les déclarations de Kazirai. Il manque pas de balancer un petit pic vers Nintendo, balancer un petit pic vers Microsoft. Bon, et il y a des déclarations.
Et ce sont les médias qui répètent ce genre de choses.
Ouais. Répètent. Et puis même les éditeurs, quand tu vois les déclarations d'Activision, par exemple, il y a pas si longtemps que ça sur la PS3, ça attisse aussi. Quand t'as le directeur d'Activision qui dit qu'il veut plus développer sur PS3 parce qu'elle est trop chère et parce que etc. C'est du discours de fanboy un peu.
Et en fait, c'est une des questions qu'on retrouve le plus souvent dans des interviews maintenant de pour les grosses exclus à venir. C'est est-ce que vous pensez que ce jeu pourra tourner sur la console concurrente? Et dire, ah non, surtout pas, elle est pas assez puissante, le fichier, machin, le truc, etc. Et puis après, bon, on voit par exemple FF13 sortir sur la console concurrente. Ça va au-delà de la raison. Et chaque fois, t'as des interviews, soit t'as des participations qui font monter la sauce un petit peu plus. Alors que finalement, paradoxalement, on se retrouve devant une génération de consoles, Wii comprise, où ces consoles-là sont peut-être très complémentaires les unes des autres.
Ouais. Je pense que t'as de plus en plus de personnes.
Encore plus que dans les générations précédentes.
Ce qu'allait certainement dire Bruno, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui possèdent ces trois consoles-là aujourd'hui.
Les trois ou deux
peut-être
sur trois.
Pas
ou
au moins deux sur trois, oui.
Mais voilà, quelqu'un qui a la 360 aura peut-être pas la PS3, mais il aura sans doute la Wii s'il a une petite amie ou des parents qui sont un peu joueurs. T'as vite la Wii, quoi.
On a pas mal de membres hein, qu'on l'a et PS3 et la Xbox 360. Parce
ah ouais.
Ah ouais, ouais, pas mal. Ouais.
Ah, donc la communauté PS3 aussi, hein. serait plus ouverte que la communauté Xbox 360.
Je sais pas. Je sais pas, parce qu'en fait, le truc c'est que t'as le lecteur Blu-ray sur la PS3, donc je pense qu'effectivement quelqu'un qui a une Xbox 360 pour le jeu va peut-être être tenté maintenant avec la Slim d'aller vers la PS3 pour avoir un lecteur haute définition, peut-être.
Alors moi j'ai l'impression qu'aujourd'hui on est face quand même à une guerre un peu sans fin, un bras de fer. Je pense que personne ne pourrait sortir perdant ou gagnant, contrairement à ce qui se passait avant où il pouvait y avoir des échecs cuisants, on l'a dit, des défaites lourdes.
Chacun a ses avantages et ses inconvénients.
Mais on voit, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit mal.
Les jeux, puisque les éditeurs sortent leurs jeux sur toutes les consoles.
En tout cas, on voit mal aujourd'hui, peut-être, Sony, devoir arrêter de développer des consoles. De son côté, Microsoft arrêter aussi, ou même Nintendo. On a l'impression d'être face à trois concurrents, mais qui.
Sur cette génération de consoles, ouais, non, je pense pas qu'il y aura de vrais échecs. Cuisant.
Mais le marché est très bien comme ça parce que d'un certain côté cette guerre des prix qu'on a eue on l'aurait pas eue quand il y a Wii la Wii a une position de presque de quasi monopole pour l'instant, elle se sent pas attaquée, elle vend toujours autant, donc le prix ne baisse pas, alors que dans les deux grosses consoles n'arrêtent pas d'avoir une politique agressive au niveau des prix et les prix baissent, et nous en tant que consommateurs on ne peut être que gagnant d'avoir justement deux consoles qui se tirent à peu près la bourre à peu près le même nombre de ventes qui bourricoupent.
Alors tu parles des prix justement, on va rappeler ce qui s'est passé récemment hein, à la Gamescom récemment, donc Sony annonce clairement officiellement une PS3 Slim et une PS3 à 299€, donc on peut dire un lecteur Blu-ray à ce prix-là, enfin voilà. De son côté Microsoft...
Alors attention, alors là je t'arrête, je suis pas d'accord. Non, la PS3, il faut arrêter de dire Nawak, n'est plus le lecteur Blu-ray le moins cher du marché.
Ça, non, aujourd'hui, c'est vrai que tu trouves des Philips à 150€, c'est vrai que tu trouves des lecteurs beaucoup moins chers.
Non, mais je suis pas assez spécialiste pour savoir ça. Très bien, écoutez, j'ai une bêtise. Merci.
Tu as bien fait.
C'était tout simplement une ignorance de ma part. Donc, c'est pas le lecteur Blu-ray le moins cher, mais,
c'est
un lecteur Blu-ray qui fait console de jeu aussi.
C'est le meilleur marché. Ce qu'il faut voir, par contre, c'est effectivement pourquoi s'acheter un lecteur Blu-ray Philips à 150€ pour avoir une qualité tout juste supérieure à un lecteur DVD. Alors qu'avec la PS3 qui est aussi une console de jeu, aussi un média serveur, etc., tu peux avoir un lecteur quand même qui est toujours reconnu dans les magazines spécialisés parmi les meilleurs du marché et très évolutif surtout. C'est ça qui fait sa grande force.
Ouais, surtout avec l'arrivée de la VOD bientôt sur la PS3, là aussi ça va vraiment changer, pousser un petit peu plus loin la PS3 dans la machine multimédia qu'elle se devait d'être presque dès le début.
C'est comme ça qu'il la vendait au début, oui. C'était la machine qui doit être au milieu du salon.
Ils en sont revenus un peu de ça. Je pense qu'ils se sont plantés en faisant ça justement, parce que quand ils ont lancé la PS3, ils ont appuyé là-dessus et ils auraient mieux fait d'appuyer sur le fait que c'était aussi avant tout une console de jeu, parce que ils ont perdu du crédit là-dessus. Parce qu'à l'époque, comme on disait tout à l'heure, hein, ils ont sorti un lecteur Blu-ray très bien, mais enfin bon, un lecteur Blu-ray sur une télé cathodique, t'as de noir et blanc ou t'as de la merde. Donc c'était pas là-dessus qu'il fallait axer la com, parce que il y avait très peu de personnes équipées et puis les joueurs, mais c'était pas ce qu'ils attendaient d'une console de Sony.
Dans tous les cas. Sony a réussi à imposer un nouveau format. De ce côté-là, Microsoft a perdu. Est-ce qu'on peut imaginer, je pense qu'on peut imaginer, que la prochaine console de Microsoft sera équipée du Blu-ray?
Disons qu'on a perdu, on n'avait pas le choix. C'est-à-dire que le Blu-ray, c'est un produit Sony. Donc forcément, ils n'allaient pas filer la technologie à Microsoft pour qu'ils sortent un lecteur Blu-ray sur la 360. Donc en gros, soit la 360 sortait un lecteur HD DVD, soit elle sortait rien du tout. Donc on n'a pas vraiment perdu, quoi. Ils ont essayé.
Il y a eu un face à face et il y a eu quand même, enfin l'un des deux qui a remporté cette.
Voilà, c'est même pas la faute.
Ce petit affrontement.
Des consoles, c'est ça se joue plus haut, ça se joue dans l'industrie du cinéma. C'est aussi les grands rois du cinéma qu'on choisit, le futur format, quoi.
C'est les studios qui ont fait balancer.
Et le studio Sony est déjà très très implanté au cinéma, donc.
Ouais, c'est clair.
Donc on l'a vu, baisse de prix. le développement très prochainement, enfin ça va arriver là en début d'année prochaine, de nouveaux périphériques de contrôle du mouvement, autant pour la 360 que pour la PS3. Comment
on arrive, Jérémy, on arrive.
comment selon vous ça va se passer? Qui va sortir vainqueur? Est-ce qu'il y aura un vainqueur de cette guerre là?
Moi j'espère pas.
J'espère pas. Bah oui, bien sûr, parce que regarde, tout simplement, imagine, il n'y aurait pas eu la Wii, enfin l'innovation de la Wii. T'aurais pas eu Natal et t'aurais pas eu la PS3 mode, ils s'en seraient pas emmerdés à sortir une nouvelle technologie s'il n'y avait pas eu la Wii. Donc c'est super bien qu'il y ait de la concurrence, ça pousse les éditeurs à développer des nouvelles technologies, des jeux de plus en plus innovants et intéressants. Tant mieux, mille fois tant mieux, mon Dieu, pourvu qu'on reste tous là et que dans 10 ans on fasse cette émission encore une fois.
Ça a réveillé un peu Sony et Microsoft. Bon, surtout Sony, hein, bien sûr, qui, je sais pas si vous avez vu, mais qui est en train aussi de déposer des brevets pour des détecteurs d'émotions, enfin des trucs un peu. Ouais, bon, après, je sais pas comment ça s'exploiter, mais.
On a l'impression qu'ils veulent passer à côté de rien de ce qui pourrait réussir ailleurs. C'est un petit peu la guerre des brevets aujourd'hui aussi. Hein.
Nintendo a grillé tout le monde avec son contrôleur. Nous, on n'a rien vu venir, Microsoft non plus. Donc là, on est en train de sortir, c'est comme un gros brainstorming en fait, où ils sortent toutes les idées les plus folles et ils déposent des brevets toutes les semaines. Quoi. Donc, d'un autre côté, c'est bien, hein, tant mieux pour nous.
Avec son contrôleur de football américain, je sais pas si c'est un gag ou pas, ça, mais.
T'as le skate en plastique, là aussi.
La course équestre,
ouais. Donc,
ouais, d'ailleurs, le coussin péteur, ouais, géant.
Donc, je pense qu'on a quand même fait largement le tour de cette guerre des consoles. Ouais. On peut peut-être donc, pour finir, conclure sur ce qui pourrait être la console ultime, ce qui pourrait vraiment l'emporter. Donc, on l'a dit, hein, des prix vachement attractifs, des jeux exceptionnels, le fait de pouvoir bouger devant sa télévision, et puis le online avec un gros principe communautaire autour. C'est en gros... alors, laquelle des trois aujourd'hui est la plus proche de ce profil-là, selon vous?
Attends, Gus, peut-être qu'avant de conclure, on pourrait parler quand même des deux projets qui avaient été présentés à l'iCube de consoles totalement dématérialisées, parce qu'en fait, c'est une aspiration c'est une aspiration de tous les éditeurs, finalement, c'est de plus être à la botte de consoles en particulier. C'est d'avoir un seul support.
Ouais, mais le souci, c'est que si tu fais ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'as plus de concurrence. Et...
Je dis pas que je suis pour ou contre, mais au moins c'est une volonté. Quoi.
Mais je vois pas comment. Alors, on va essayer de. Bah, on peut en parler, bien entendu, mais je vois pas comment est-ce qu'on peut se retrouver avec une console entre guillemets virtuelle, des jeux qu'on télécharge, donc hein, dématérialisés, et en même temps avoir accès à. Il va bien falloir quand même un périphérique, il va quand même falloir un détecteur de mouvement ou une manette, il va falloir quand même une console quelque part à un moment ou un autre.
Tu le mets à ta télé,
t'achètes une licence, et avec ta licence, t'as accès à une console. Une console virtuelle, mais t'as accès à un contenu.
C'est quand même une façon élitiste de voir le jeu.
Un peu comme les téléphones.
Ouais, mais c'est une façon élitiste de voir le jeu vidéo, parce que bon, ça va marcher dans les pays comme la Corée, le Japon, enfin les pays très industrialisés, qui ont des moyens d'amener du très haut débit chez leurs clients, mais faut pas oublier qu'à côté de ça, il y a quand même des pays émergents qui ont pas des moyens en réseau aussi poussés que dans nos pays. Donc c'est un peu une façon égoïste de voir le jeu.
Je pense que si c'est imposé aux joueurs, comme on est en train de le faire avec la PSP Go et puis insidieusement avec les téléchargements, ça peut prendre, mais je suis pas certain que le joueur, le gamer, ait envie de ne plus avoir sa console fétiche.
Je suis tout la console, la boîte, tout.
Un jeu vidéo quand même récent, enfin je sais pas, c'est un jeu sur Blu-ray, c'est entre 40-50 gigas. Va falloir pousser pour les télécharger quand même. Hein.
La fibre optique, quoi.
Ouais, voilà, mais la fibre optique,
elle est pas là, ouais, c'est clair.
À ce que j'avais lu, les projets qui avaient été présentés à l'iCube, c'était presque quasiment du streaming, quoi.
Du streaming. Ouais, totalement.
Donc, t'as pas les 4 gigas, t'as pas les 4 gigas chez toi.
Alors, on vit déjà un petit peu dans la science-fiction, mais je crois que là, on y est carrément. Ça va arriver certainement, insidieusement, tranquillement, dans le temps. Peut-être que d'ici 20 ans, effectivement, on sera sur
ce système. Que nos enfants joueront avec, quoi.
Ouais. Je pense que tous les analystes le disent, la génération de consoles actuelle, elle durera normalement beaucoup plus longtemps que les générations précédentes. Peut-être que Nintendo sortira quelque chose parce que techniquement, ils sont quand même un petit peu à la bourre au niveau graphique.
Et on sent venir quelque chose.
Ça, je pense qu'au TGS, là,
ils vont peut-être faire comme les vieilles consoles.
Ils travaillent sur la prochaine console, ça c'est sûr.
Xbox et PS3, je pense que c'est des consoles qui sont faites pour durer quand même
assez longtemps. C'est clair. Ça va pas bouger déjà parce que la PS3 est largement assez puissante pour durer. La 360 a kiff la même puissance. Et là, on va tous les deux, je parle comme si on était les constructeurs, hein, mais voilà, on se comprend. On va tous les deux sortir un périphérique qui va clairement relancer les consoles comme une deuxième vie, si tu veux. Elles sont là pour encore, je dirais, minimum 6 ans.
Facile.
Les exclus aussi ont viré sur les downloads, enfin les downloads content, pas exclusifs, c'est-à-dire les éléments à télécharger pour le jeu exclusifs de console à console.
En tout cas, pour conclure, je dirais que ce qui est assez intéressant finalement, c'est que ce qui fait le succès d'une console avant tout, c'est les joueurs. La preuve en est, puisque c'est eux qui choisissent leur outil de jeu. Et contre toute attente, actuellement, c'est encore Nintendo qui l'emporte. J'aimerais, pour finir, que chacun d'entre vous parliez un petit peu de la console concurrente. Par exemple, on va peut-être commencer avec Maxou. J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la PlayStation 3. Sincèrement, en toute sincérité, qu'est-ce que tu penses de cette console, des jeux qui sont sur cette console, en quelques mots?
Alors, en quelques mots, c'est une console que j'aurais adoré avoir si j'avais eu les moyens. Maintenant, elle est abordable, elle m'intéresse, mais je pense que malheureusement elle a pas assez d'exclusivité pour me séduire, je parle de mon cas personnellement. Après, je pense que quelqu'un qui aujourd'hui n'a ni la 360 ni la PS3 pourra sans doute se pencher vers la PS3 parce que voilà, pour 50 euros de plus, t'as un lecteur Blu-ray, t'as un mode online gratuit, t'as le Wi-Fi intégré. Là effectivement, peut-être que j'aurais pas fait le même choix si j'aurais dû choisir aujourd'hui.
Très bien,
mais maintenant
ça,
que j'ai 360, je pense pas acheter une PS3.
Donc c'était Maxou du site xboxmag.net. Souligne.
Écoute, non mais
c'est bien,
t'as
été sincère. Non mais
voilà,
effectivement, mais je pense que tu as dit en fait. En plus, tu as dit en fait ce que tout le monde pense, je crois aujourd'hui. Concernant la Wii, quelques mots aussi, Maxou.
Concernant la Wii, ouais non là je vais être moins sympa. c'est juste. Cette console, je l'achèterai que si ma copine me le demande. Voilà.
D'accord, ou tes futurs enfants.
C'est vraiment un truc qui m'intéresse pas du tout.
De ton côté, Bruno, si tu devais, toi aussi, définir la Xbox 360 en toute sincérité, est-ce que tu as la console d'ailleurs ?
Non, j'ai pas la Xbox 360. Je pense que si, quand j'ai acheté la PS3.
Ne nous dis pas la même chose que Maxou,
non. Non, mais c'est un peu l'inverse. Non, c'est, si je n'avais voulu qu'une console de jeu, je pense que j'aurais pris la Xbox 360. Ce que je regrette un peu aujourd'hui, de la part de Microsoft, hein, c'est, on parle du prix, on a beaucoup parlé du prix de la PS3. On en a pas parlé, on en a parlé un peu off tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il y a il y a tout ce qui est accessoire, tout ce qui est inclus dans la PS3 qui n'est pas dans la Xbox 360. quand on cherche à faire un petit comparatif, on se rend compte que finalement les consoles sont pas si éloignées que ça niveau prix. Je pense que Sony a fait une erreur de communication au début, ou a sorti sa console un peu précipitamment, parce que ou au contraire Microsoft l'a fait intelligemment en sortant la sienne d'abord, et que la PS3 était tout simplement trop en avance sur son temps et trop chère à produire, et par rapport à une console qui est une excellente console, la Xbox 360, mais qui est faite pour jouer uniquement.
Et surtout, en fait, le problème avec la PS3, c'est que elle s'est allégée au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que autant c'était quelque chose, c'était une console qui était très fournie, très complète initialement, avec la rétrocompatibilité PS2, avec les slots de cartes SD, avec quatre ports USB, ce qui est pas négligeable quand on joue par exemple à Rock Band ou à Guitar Hero. Et t'avais tout ça, et elle a perdu progressivement un peu.
Tu nous parles de la PS3 Slim, mais elle continue à être produite, la PS3 d'origine.
Ah bon, d'accord. Mais je pense que Sony a eu les yeux plus gros que le ventre, en fait, tout simplement. Il y a eu un espèce de complexe de supériorité, je pense, après la PS2, où ils se sont vus les plus beaux, ils se sont vus les plus forts, ils ont voulu sortir une console un peu hors norme, mais elle était tellement hors norme qu'elle était hors tout court, quoi. Elle était hors du temps, franchement, ils ont un peu oublié qu'avant tout c'était une console de jeu que les gens attendaient. Et ils en ont mis trop, peut-être, et ils ont eu les yeux plus gros que le ventre. Ça leur a coûté énormément d'argent.
Pour développer le processeur qui est dans la PS3, je crois qu'il pareil, je voudrais pas dire une bêtise, mais je crois que c'est plus d'un milliard développer ce type de processeur, qui finalement n'est pas si révolutionnaire que ça. Enfin, les jeux sont
très puissants.
Bruno, quelques mots sur la Wii aussi, peut-être.
Ah oui, bah la Wii, alors bah moi j'allais finir, en fait, Maxou a fini comme ça. Moi j'ai acheté une Wii parce que ma femme m'en a demandé une. Non, mais clairement. Après, c'est pas que je me suis pas amusé dessus de temps en temps avec mes enfants. J'ai deux enfants aussi qui sont jeunes, qui s'amusent beaucoup sur la Wii, mais je dois avouer que mon fils, qui a 8 ans, s'amuse plus sur Little Big Planet et sur la PS3 que sur la Wii. Il est un peu comme moi, quoi. C'est-à-dire que ça a été rigolo 15 jours, 3 semaines, et puis, elle est un peu laissée de côté, à part ma femme, donc, qui est toujours, pour l'instant, très, très acharnée à ses jeux.
À ses exercices matinaux.
sur Active, Je pense que, moi, ce qui me déplaît, franchement, sur la Wii, sans taper dessus, c'est que Nintendo a tourné le dos aux gamers. Ça m'a un peu choqué. Et qu'ils ont profité de la crédulité, un peu, je trouve, des gens qui ne connaissent pas le jeu vidéo, pour vendre une console dépassée techniquement à un prix fou, quoi. Parce qu'on parle beaucoup du prix de la PS3, mais une Wii, qui est une GameCube techniquement, à 250€, je trouve ça très
abusé. J'aimerais rajouter que faut savoir quand même que la manette complète coûte 60€.
Oui. Bon, on va pas l'enfoncer plus que ça.
Mais je pense, non.
Parce que justement, ça va être un petit peu délicat pour moi. Je dois laisser la parole.
On doit beaucoup, enfin, le jeu vidéo doit beaucoup à la Wii parce que, autrement, on n'aurait jamais autant parlé du jeu vidéo s'il n'y avait pas eu la Wii. Hein, donc, je pense qu'on peut dire merci à Nintendo d'avoir sorti une console comme ça.
Très bien.
En tant que joueur, en tant que vieux joueur, ancien, si je préfère, ouais, je me suis senti un peu mis de côté. Quoi,
d'accord. Ben justement, on va parler un petit peu avec Jérémy maintenant. C'est un petit peu délicat après tout ça, mais donne-nous un peu ton opinion. Nous parle pas de la Wii, parle-nous de la PS3, parle-nous de la 360.
Moi, personnellement, j'ai les trois consoles. Donc, je me satisfais pleinement avec les trois consoles, bien que je me satisfais moins, et ça va être un drame pour ma communauté, avec la Wii. Mais la PlayStation 3 et la Xbox 360 proposent toutes les deux des choses différentes, bien que je trouve qu'elles aient des similitudes, même au niveau des stores, qui souvent proposent les mêmes démos, les mêmes vidéos, les mêmes choses, à quelques décalages près. L'intérêt pour moi, c'est les exclusivités. Donc moi, j'ai acheté une PlayStation 3 tout simplement parce que j'avais une PlayStation 2 que j'ai adoré, les Final Fantasy, les Metal Gear Solid. Donc j'ai pas voulu quitter ces jeux-là, donc j'ai acheté. Et pour la Xbox, en fait, tout bêtement, c'est parce qu'en fait, j'avais la première Xbox que j'ai repris, enfin j'ai échangé contre celle-ci en fait, avec un petit différent d'argent, pour avoir les licences Halo que je suivais aussi pertinemment, et le Xbox Live que j'attendais énormément, parce que j'avais joué à Xbox Live sur Xbox, donc première du nom. Et ça m'avait vraiment, franchement, beauté. Donc j'ai suivi. C'est là les deux intérêts que j'ai. Parce qu'en fait, le Blu-ray également sur la console, même si c'est plus pour la famille, plus que pour moi. Mais c'est surtout le Xbox Live sur la Xbox et sur la console PlayStation 3, les exclusivités.
Donc je sais pas si on peut parler aujourd'hui d'une console unique. Je sais pas si l'avenir va vers ça. En tout cas, l'uniformisation viendrait du fait de pouvoir posséder les trois, qui est peut-être la seule solution pour pouvoir goûter à tous les plaisirs vidéoludiques qu'on nous sert aujourd'hui.
La baisse de prix va aider à ça, hein, de toute façon.
En plus, Jarel, justement, je voulais peut-être finir avec toi, qui, toi aussi, je crois, a les trois consoles.
Oui, moi, j'ai les trois consoles. Moi, je sais, de toute façon, j'ai jamais été trop fan d'une console en particulier. Pour moi, c'est le plaisir de jeu et les jeux. Donc, tant qu'il y a du bon jeu dessus, moi, je suis un passionné. Et puis, c'est là où je mets mon argent. J'ai mis ça dans les consoles. J'ai d'abord choisi la Xbox 360 parce que au moment T où j'ai acheté une console next-gen, c'était la console qui avait le plus de jeux intéressants au plus bas prix. Et puis après, bon, il y a ma femme qui a demandé la Wii.
Ah, les femmes. Allez, merci.
C'est ça qui est assez impressionnant, en fait. C'est vrai que la Wii a ouvert finalement la console à tout un public qui n'était pas du tout attiré par ça jusqu'alors. Hein. Donc, ça, c'est vraiment très particulier, c'est vraiment très sympa. Et puis, pour les soirées entre potes et autres, tu sors la Wii, tu passes 20-30 minutes sympa. Là, il n'y a pas à chipoter.
Et donc, la PS3?
Et après la PS3, c'est pas pareil, quoi. C'était pour des exclus qui me font énormément de l'œil, même si moi, je suis pas trop Metal Gear. Mais le Blu-ray, je suis aussi cinéphile, et le Blu-ray, c'est quand même nickel, quoi. C'est C'est le plaisir pour les yeux.
Très bien. Bon, ben on va se quitter là-dessus, je pense. Je crois qu'on a fait largement le tour de la problématique et en douceur, ce qui est plutôt agréable. Je m'attendais à des affrontements pas possibles et en fait, il n'y a pas eu.
Non, pas du tout.
Non, je plaisante. Au contraire, je savais très bien que ça allait très bien se passer.
Vive la concurrence.
Voilà. Merci à tous les quatre. Donc, Jérémy de Nintendo Différence. Vous pouvez le retrouver sur son site régulièrement. Il est rédacteur en chef. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur Nintendo Différence.
J'y suis, je vous attends de pied ferme.
Je vais fouetter le train.
T'es un petit peu loin avec ton son. Téléphoner. Maxou, merci à toi d'avoir participé aussi à cette émission. Donc, xboxmag.net, vous connaissez maintenant, chers auditeurs, puisque vous avez pu suivre Maxou dans ses aventures en Allemagne. Je le répète et je le remercie à nouveau pour ça.
C'est pas de problème, c'est toujours un plaisir.
Et puis Bruno, dont on a fait la connaissance ce soir, du site Play 3 Live, et très agréable de partager avec toi cette heure et demie déjà, je crois, d'émission en ta compagnie.
Ouais, pareil, ça a été un plaisir pour une première. Si j'ai l'occasion, je reviendrai.
Ben, ce sera volontiers. J'espère bien qu'on se retrouvera à nouveau autour de cette table virtuelle. Et puis, Jarel, merci à toi de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Merci à tous les cinq. Vous retrouverez certainement un nouveau podcast avec un format à peu près semblable. Donc, plusieurs personnes comme ça, de sites différents. Peut-être les mêmes, j'aimerais bien. Peut-être le mois prochain. Voilà, pour un nouveau thème. On réfléchira d'ici là pour vous proposer une émission aussi intéressante, je l'espère, que celle que nous avons proposée aujourd'hui. Merci à tous. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir.
Juste une chose, on a perdu un compagnon. Ouais.
On a perdu Jérémy.
Voilà.
La Wii est quand même une console où t'as plus d'exclus quelque part.
Non, j'aime bien en parler, elle est tellement exclue qu'on a reperdu Jérémy.
Au revoir.
Au revoir.
Salut. Au revoir.
Bon, là, il va falloir que je reprenne tous vos au revoir. Je vais les mettre ensemble pour que ça fasse un au revoir général. Refaites-moi un ensemble pour voir.
Non, c'est vrai. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Oh,
c'est
au revoir.
Mignon. Ah, c'est magnifique.
Alors,
il
faut compter 1, 2, 3.
Au revoir.
Au revoir.
Bravo. Très bien. Impeccable.